Le journal Loïc Barrière. La France a finalement accepté d'accueillir les 234 migrants qui se trouvent à bord du navire affrété par SOS Méditerranée, mais Paris critique le refus de l'Italie de les laisser débarquer sur son sol. Au Liban, pas de consensus lors de la cinquième séance au Parlement pour tenter de trouver un successeur au président Michel Aoun. Aucun des candidats n'a obtenu la majorité. Très peu de métro à Paris ce jeudi en raison d'un mouvement de grève à la RATP. À la veille des commémorations du 11 novembre, l'hommage du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems Eddin Hafiz, aux soldats musulmans de la Première Guerre mondiale. Enfin, ouverture ce vendredi du Festival international de cinéma de Marrakech. La France va accueillir l'Ocean Viking à titre exceptionnel. Le navire qui transporte 234 migrants se rendra à Toulon ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur précise qu'un tiers de ses passagers seront relocalisés en France. Trois migrants dans un état de santé grave et un accompagnateur ont dû être évacués par hélicoptère vers l'hôpital de Bastia en Corse. L'accueil de l'Ocean Viking faisait depuis plusieurs jour l'objet d'un bras de fer entre Paris et Rome. L'Italie a refusé de l'accueillir, un choix incompréhensible, estime Gérald Darmanin. En réaction, la France annonce que l'accueil de 3500 réfugiés actuellement en Italie est suspendu. Au Liban, toujours pas d'accord entre les députés sur un nouveau président de la République alors que le mandat de Michel Aoun s'est achevé le 31 octobre. La cinquième séance consacrée à l'élection de son successeur s'est soldée par un nouvel échec. Le candidat Michel Moad a obtenu 44 voix alors qu'il en faut 86 pour être élu au premier tour. La date de la prochaine séance du Parlement a été fixée au 17 novembre. En Iran, l'armée va-t-elle intervenir contre les manifestants? Le commandant des forces terrestres, le général Qumars Heydari, a déclaré qu'il attendait les ordres du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Le pays est confronté à des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Le nombre d'enfants mal nourris dans le nord-est de la Syrie a augmenté de 150%. L'ONG Save the Children lance un appel urgent aux donateurs. Cette région syrienne est affectée par la fermeture des points de passage, mais aussi par l'inflation des produits alimentaires. Le métro parisien quasiment à l'arrêt ce jeudi pour les habitants d'Île-de-France, alors que l'appel à la grève lancé par la CGT a été largement suivi à la RATP. Seules deux lignes de métro ont fonctionné normalement. L'ensemble des syndicats réclament des hausses de salaire, un mouvement qui a affecté aussi les RER A et B. Le syndicat UNSA RATP se dit prêt à une grève illimitée si cette demande n'est pas satisfaite. L'invité de Pluriel hier soir était Ella Kribi-Romdane, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de Génération. Elle est notamment revenue sur le projet de texte sur l'immigration du gouvernement. Elle a réagi aux propos du ministre de l'Intérieur, pour qui il faut être, selon ses mots, méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. On écoute Ella Kribi-Romdane.
Son résumé, sa formule en dit long sur l'état d'esprit qui anime le ministre de l'Intérieur et qui anime le gouvernement en général. C'est-à-dire qu'on est en train de choisir qui est gentil, qui est méchant parmi les personnes qui viennent d'ailleurs, décidant de sélectionner celles et ceux qu'on veut garder sur la base de l'intérêt économique du pays. D'ailleurs, sur quelle base peut-on juger de l'intérêt économique? C'est quand même ça dont il faut qu'on puisse échanger et parler. Alors, ce projet de loi sur l'immigration, on en connaît pour l'instant pas grand-chose en réalité. On sait juste qu'il y a un gouvernement qui, conformément à ce qui s'est passé l'année dernière pendant les élections présidentielle, mais aussi législative, qui courent en permanence derrière l'extrême droite. Là, de nombreux députés de la majorité présidentielle proche d'Emmanuel Macron ont d'ailleurs commenté dans les médias le fait qu'il s'agissait de ne pas laisser l'espace à l'extrême droite. Mais est-ce que ne pas laisser l'espace à l'extrême droite, c'est adopter sa doctrine? Est-ce que c'est essayer de faire entendre qu'on pourrait penser la même chose? Je ne le pense pas. Je pense qu'on combat les idées racistes, qu'on combat le Rassemblement national avant tout par des arguments clairs. Aujourd'hui, la France connaît une réalité, c'est la diversité de sa population. Et la manière dont il nous est présenté ce projet de loi, c'est qu'il y aurait un lien entre les questions de délinquance et d'immigration, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui sont formulées dans ce sens, notamment sur la question de double peine, etc. Et donc, je trouve ce climat dangereux. Je trouve qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle, elle alimente l'extrême droite plus qu'elle ne la combat.
Et là, Kribi Ramdan, l'extrême droite, justement, voit dans ce projet sur l'immigration un moyen déguisé de régulariser des immigrés en situation irrégulière. Est-ce que pour des métiers comme le bâtiment ou la restauration, ce projet de loi, finalement, ne serait pas un bon moyen de mettre fin à l'hypocrisie, puisque de nombreux sans-papiers travaillent déjà dans ces secteurs?
Mais bien sûr qu'il faut régulariser les travailleurs qui sont en situation irrégulière et qui sont aujourd'hui victimes, pour certains d'entre eux, de mauvais agissements de la part de leurs employeurs. On a beaucoup d'entreprises, et on le voit en effet dans le bâtiment, mais aussi dans d'autres champs d'activité comme la restauration, où on a des difficultés énormes à recruter en France. On a on va chercher de la main-d'œuvre. Sauf que si elle est en situation irrégulière, on peut en faire, elle est corvéable à merci, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et les humains, il faut qu'on puisse les protéger des agissements dangereux de certains employeurs, mais aussi laisser la possibilité aux employeurs de favoriser l'intégration, l'inclusion de celles et ceux qui, honnêtement, font leur travail. Et donc, moi, je suis tout à fait favorable, comme beaucoup de personnes de la classe politique, à ce que ces personnes puissent être régularisées.
Et là, Kribi Ramdan, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de Génération, elle était l'invitée de Pluriel, émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. Le Sénat a voté un an de stage en désert médical pour les jeunes médecins. Cette quatrième année de stage aura lieu dans les zones sous-dotées en soignants. 14 000 médecins encadrants devront être disponibles pour superviser ces jeunes médecins. L'imam marocain Hassan Iquissen a confirmé son refus d'être extradé vers la France. C'est ce qu'il a dit lors d'une nouvelle audience en Belgique sur l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons rendra son arrêt mardi. La France souhaite l'expulser vers le Maroc. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale prenait fin avec la signature de l'armistice. La grande mosquée de Paris a été bâtie en hommage aux soldats musulmans morts pour la France durant cette guerre. Entretien avec le recteur de la grande mosquée de Paris, maître Shems Eddine Hafiz.
Le sacrifice suprême des musulmans pendant cette Première Guerre mondiale a été donc célébré de manière très forte par le pouvoir de l'époque qui souhaitait donner à ce sacrifice la place qu'il méritait au sein de la République. Et c'est ainsi qu'un projet de réalisation d'une mosquée, et à Paris et pas dans n'importe quel arrondissement, puisque c'est en plein quartier latin, c'est juste à côté du Jardin des Plantes, pas très loin de Notre-Dame, pas très loin de la faculté de la Sorbonne, des grands lycées, le lycée Henri IV, les grandes écoles, polytechniques, etc. Et donc, ce choix montre à l'évidence que l'islam, à ce moment-là, entré par la grande porte de la République, était accueilli au même titre que les autres religions monothéistes, notamment puisque nous savons qu'au moment de la loi de séparation de l'État et de l'Église en 1905, l'islam n'était pas encore reconnu comme religion de France. Et il a fallu quelques années, donc, et malheureusement, un sacrifice de musulmans, donc que le sang musulman a coulé, pour que, enfin, les pouvoirs publics mettent autour de la table de la République une quatrième religion qui est donc l'islam. C'est un moment important parce que ce que je dis, c'est qu'on aurait pu prévoir la réalisation de cette mosquée dans un quartier populaire, dans pourquoi pas en banlieue. Pas du tout, et ça je crois que c'est l'obstination d'hommes qui, notamment le premier d'entre eux, qui est le fondateur de la Grande Mosquée de Paris, c'est Radou Ben Ravalet, mais à côté de lui il y avait le maréchal Lyoté, à côté de ces deux il y avait également un journaliste qui en 1922 s'est vu nommé à la tête d'une académie, hein, l'Académie des sciences, qui est aujourd'hui l'Académie des sciences d'outre-mer, qui vient de fêter ses 100 ans. Donc ces trois hommes, avec beaucoup d'obstination, ont voulu absolument donner la place que méritait l'islam au sein donc des institutions de la République. Et je crois que c'est un moment important. Et donc aujourd'hui, à la veille du 11 novembre, se dire qu'il y a quelques jours de cela, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu à la mosquée de Paris pour montrer également l'attachement d'un président de la Ve République à ce qui est aujourd'hui la deuxième religion de France. Il est venu, il est resté pendant presque 3 heures, il a visité une exposition qui a été conçue pour expliquer aux personnes intéressées, notamment aux non-musulmans, ce qu'a été cette histoire, comment on en est arrivé à construire cette mosquée, par quels moyens, quels instruments juridiques, parce qu'il y a eu beaucoup de, je crois, de choses qui ont été dites. Et ben, il fallait aujourd'hui inscrire dans le marbre cette histoire. Et à côté de cela, le président de la République a inauguré une plaque commémorative en entrant dans la mosquée de Paris qui rappelle effectivement le sacrifice des musulmans pour la France et deuxièmement la République qui a donné toute l'importance à l'islam en créant une très belle mosquée. Hein. Ça a été, comme vous l'avez dit, la première pierre, c'est l'inauguration, enfin c'est la célébration pardon de la première pierre, donc octobre 1922. Il a fallu 4 années pour réaliser cette mosquée. Cette mosquée a été ouverte aux fidèles en 1926, donc toute l'architecture a été conçue et a eu un travail, c'était pas du tout un travail bâclé. Mantou, qui était l'architecte qui a conçu donc les plans de la Grande Mosquée de Paris, est né à Alger, venait d'Alger pour réfléchir à cette architecture arabo-musulmane et en même temps rappeler ce qui était déjà dans l'Europe, notamment en Andalousie, un certain nombre de mosquées, celles de Cordoue, de Séville, de Grenade, toute cette magnifique civilisation musulmane sur les terres d'Europe, mais en même temps, un clin d'œil au Maghreb, à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, puisqu'on voit, et nous avons eu la chance d'avoir de grands spécialistes qui sont venus l'avant-veille du 19 octobre. On a organisé ici, à la Grande Mosquée de Paris, un colloque sur l'architecture arabo-musulmane et notamment sur l'architecture de la Grande Mosquée de Paris. Nous avons eu des spécialistes qui sont venus, qui nous ont fait un exposé sur les minarets du Maghreb, sur cette architecture arabo-musulmane, et eux-mêmes ont confirmé que à ce moment-là, cette mosquée, quand elle a été réalisée, il y a eu les meilleurs artisans qui sont venus avec les plus beaux matériaux de l'époque qui ont permis de réaliser cette très belle mosquée qui aujourd'hui malgré son âge, est de plus en plus belle.
Et cela peut se découvrir justement durant cette exposition 1922-2022, premier regard, première pierre à la Grande Mosquée de Paris. La France moderne est construite en partie sur le sacrifice de ces combattants que nous ne devons jamais, jamais oublier. Et c'est pour éterniser leur mémoire qu'elle édifia ce lieu, selon les mots du président de la République française le mois dernier à la Grande Mosquée de Paris. Ce message, il est notamment particulièrement important pour la jeunesse française.
Oui, moi je pense que les jeunes, notamment de confession musulmane, doivent s'accaparer de cette histoire et être fiers de l'histoire de l'islam au sein de la République. Et nous voyons avec quel respect, avec quel, courage de l'époque, avoir décidé d'ériger une mosquée. Alors, pour vos auditeurs, il serait intéressant quand même de dire qu'il n'y avait pas simplement un projet de réalisation d'une mosquée, c'était toute une vie qui était en train de se construire, puisqu'il y a eu la réalisation d'un projet qui était de construire un hôpital qui aujourd'hui porte le nom d'Avicenne, et dont Mantoux, qui était l'architecte de la Grande Mosquée de Paris, c'est lui qui a également élaboré les plans de l'hôpital Avicenne. Il y avait un échaudoir qui a été par la suite construit un peu plus tard, en 1939. Il y a eu un foyer d'immigrés qui a été également mis en place. Et puis, au sein de la mosquée, il y a un hammam, il y a un salon thé, il y a également un cimetière musulman qui a été prévu et qui est aujourd'hui propriété de la mairie de Bobigny. Donc on voit bien que ce n'était pas un projet fugace qu'on a tout de suite rapidement mis en place, bâclé en disant qu'il fallait faire un geste, mais pas plus. Bien au contraire, on sent que les autorités à l'époque voulaient absolument donner toute la place à l'islam et aux musulmans.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Chemseddine Hafiz, il répondait à François-Xavier de Calonne. Enfin, cinéma, le retour du Festival international de Marrakech, interrompu pendant 2 ans en raison de la crise sanitaire. 14 longs métrages seront en lice pour l'Étoile d'Or, la récompense suprême à Marrakech. Le jury international est présidé cette année par le cinéaste italien Paolo Sorrentino. À 19h23, et si on en parlait, le thème de l'émission, la montée des radicalités politiques et de l'extrême droite en Europe et en Israël. Alexis Bachelet reçoit Inès Gilles, journaliste indépendante basée à Beyrouth, et Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques pour la Fondation Jean Jaurès. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.